Bienvenue pour ce temps de formation de cycle 1 sur formation fondamentale sur le mystère du mal, de la souffrance et du péché. Voilà. On pourrait dire plutôt mystère du mal, du péché et de la souffrance. Nous n'en ferons pas le tour, c'est un mystère, mais nous allons essayer de creuser un peu à travers ce que nous dit l'Église, les saints, l'Évangile, essayer de comprendre ce mystère du mal qui nous touche tous. Je voudrais commencer ce temps-là par citer un grand théologien du siècle passé, le cardinal Journet, voilà, qui peut-être un jour, je l'espère, sera béatifié, qui était suisse et qui a connu le mystère du mal de près. Il a écrit un essai théologique dessus, qui a grande réputation, mais aussi il a médité après la Seconde Guerre mondiale, après avoir eu des connaissances polonaises et par ses amis, être au courant de ce qui s'était passé durant la Seconde Guerre mondiale. Il n'a pas été physiquement touché par ce mal-là, mais il en a été impacté spirituellement, il a médité. Et voilà ce qu'il dit au début de son essai sur le mystère du mal. Pour nous prévenir que si nous rentrons là-dedans, nous rentrons vraiment dans quelque chose qui nous dépasse. Et aujourd'hui, nous allons y réfléchir à froid. Mais quand c'est à chaud, ben c'est difficile de vivre. Donc il faut mieux avoir des bases solides à froid plutôt que de perdre la tête, de perdre le sens de sa vie, de perdre sa foi à chaud. On hésite, dit-il, au moment de toucher au mystère du mal. On le porte en soi secrètement, à l'état de question, parfois de torture. Mais quand il faut en parler, comment se sentir prêt ? On voudrait des délais. On sait que la moindre purification de son propre regard et de son propre cœur, espérée pour chaque demain, fera paraître ce qu'on aura dit pauvre ou insuffisant. Faut-il donc différer sans cesse ? Faut-il tenter plutôt, même imparfaitement, de rappeler quelques voies d'approche par où l'âme trouverait entrée dans la profondeur ? Cette question du mal, nous dirait ce cardinal, elle est difficile et nous pouvons avoir des raisons d'hésiter parce que elle semble illimitée. Eh oui, le mal s'étend aux anges, à l'homme, à la nature matérielle et à toute la création. Et dit-il, l'existence du mal semble entrer directement en conflit avec le message chrétien. Comment le concilier avec le dogme de la causalité divine, le fait que Dieu crée toute chose et le fait que le mal semble se propager en toute chose. Voilà. Dieu serait-il l'auteur du mal, dit-il, ou faut-il renoncer au dogme de l'universelle causalité divine, Dieu qui cause de tout, et imaginer par exemple deux premiers principes antagonistes, l'un bon, auteur de tous les biens, l'autre mauvais, auteur de tous les maux. Ça semble tellement illimité, le mal, que voilà, ça pose une question. Deuxième chose, c'est que peut-être la question est dangereuse. La question est dangereuse parce que si on veut y répondre, peut-être qu'on va être déçu. Peut-être qu'on va être déçu parce que, comme le dit encore le cardinal, quand on parle de Dieu et du mal, la doctrine la plus orthodoxe, si elle est répétée sans être replongée dans la flamme d'où elle est née, si elle n'est pas traversée par quelque secrète vertu de l'Évangile, trahira. Elle pourra devenir poison. Et comment dès lors ne pas trembler de causer le scandale là où l'on pensait porter la lumière ? Eh oui, si nous ne vivons pas de foi, d'amour et d'espérance ce que nous allons dire pour expliquer le mal, ça semblera être simplement superficialité et décevoir, véritablement décevoir. Et au lieu d'expliquer, nous risquons d'obscurcir encore plus. Et parfois, il faut savoir se taire et vivre cette expérience plutôt de vouloir tout expliquer et d'expliquer mal et la personne qui s'attendait d'un chrétien à avoir une vraie réponse sur ces mots, M-A-U-X, n'en trouve pas. Donc il faut véritablement plonger ce que nous disons, comme le dit le cardinal, dans la flamme d'où elle est née, voilà, dans la vie chrétienne, sinon c'est que parole. Et puis enfin, il y a un risque de présomption, comme le dit encore le cardinal Journet, notre manière de vivre nous sera-t-elle encore tolérable? Et oui, si nous méditons le mal, est-ce qu'au bout d'un moment, nous allons véritablement pas nous remettre totalement en cause? Il y a du mal vraiment en nous. Ne sentirons-nous pas que notre équilibre est fait d'ignorance, de complicité, de barrages protecteurs dressés par l'égoïsme? Et plus profondément, il va plus loin, c'est un cardinal qui dit ça. La foi aussi est menacée. La certitude de la vérité absolue de notre credo ne se veut-elle pas ébranlée? Alors, si nous vraiment nous méditons à plein pot, à plein le mal, à un moment donné, on peut comme sentir une éclipse. Mais bon, est-ce que Dieu est bon? Est-ce que vraiment il est bon? Est-ce qu'il est cause de tout? Parce que comment expliquer cette propagation? Voilà. Et donc du coup, il faut être très humble sur la question du mal et pas être arrogant, parce que il n'est pas dit que ceux qui expliquent le mieux vont tenir le plus longtemps dans le mystère du mal. La question du mal, elle a été abordée philosophiquement. Avant d'aborder dans la foi de l'Église, il y a toute une histoire d'explication du mal. Pour en dire quelques-uns, il y a eu des courants de pensée qui ont nié l'existence du mal. Voilà, qui ont nié l'existence du mal, comme l'a pensé un certain penseur, Spinoza, par exemple, qui pour lui, c'était simplement une histoire de point de vue. Voilà. Il n'y a pas de mal. Pour lui, dit-il dans cet exemple, une seule et même chose peut être bonne ou mauvaise, et aussi indifférente. Par exemple, la musique est bonne pour le mélancolique, mauvaise pour l'affligé, pour le sourd, elle n'est ni bonne ni mauvaise. Donc c'est qu'une histoire de point de vue. De la même manière, mais un peu différemment philosophiquement, le philosophe qui a beaucoup marqué notre époque, Nietzsche, dira « Il va de soi que le monde n'est ni bon ni mauvais. Bien éloigné d'être le meilleur ou le pire, que ces idées de bon et de mauvais n'ont de sens que par rapport au sens des hommes. » C'est qu'une histoire de point de vue, on dirait. Bon, ça, c'est une manière de voir les choses qui n'est pas la manière chrétienne du tout, qui ne répond pas au questionnement du pourquoi le mal. Et voilà. Pour d'autres encore, le mal, c'est plutôt ancien, très ancien, au IIIe siècle, le mal est quelque chose de nécessaire, voire même qu'il a une forme de consistance. Ainsi, un certain Mani ou Manès a fondé le manichéisme, c'est-à-dire qu'effectivement, il y a deux entités, comme le disait le risque de tomber là-dedans, le cardinal Journet, il y a deux entités, une entité du bien et une entité du mal. Voilà. Et cette pensée, ce manichéisme, donc le bien se propage, mais en même temps une entité maléfique fait propager le mal, une sorte de divinité du mal, a beaucoup marqué Augustin, qui avant d'être chrétien était manichéen. Voilà. Et voilà ce qui se faisait comme réflexion dans les confessions, alors qu'il était encore manichéen. Quand j'avais commis une action mauvaise, j'aimais à m'excuser en accusant je ne sais quoi d'autre qui était en moi et n'était pas moi. Voilà. Finalement, j'étais influencé par quelque chose d'autre, voilà, et c'est pas de moi. Voilà, c'est pas de moi. Pour d'autres encore, comme pour Camus, au XXe siècle, la seule réponse possible au mal, à ce mystère qui nous touche, on peut penser à la Shoah, à la souffrance d'enfants, voilà, innocents, à des grandes injustices, voilà, au fait que l'homme continue à faire des guerres, à Hiroshima, à plein de choses, la seule solution de répondre au mal, c'est la révolte, particulièrement contre la douleur de l'autre, de l'homme innocent. Voilà. Et il dira lui-même dans l'homme révolté, la protestation contre le mal, qui est que le cœur même de la révolte métaphysique, est significative à cet égard. Ce n'est pas la souffrance de l'enfant qui est révoltante en elle-même, mais le fait que la souffrance ne soit pas justifiée. Quel est le sens de cela? C'est cela qui est le plus révoltant. Et on voit bien que ça reste obscur, et que du coup, La logique sera de se révolter, de poser un choix, de trouver une signification, de se dépasser. Très bien. Mais sur quelle valeur? Proprement arbitraire. Parce que pour l'homme révolté de Camus, il n'y a pas de valeur universelle. Il n'y a pas de principe premier. C'est purement arbitraire. Et nous savons que ce qui est arbitraire n'est pas vrai. Le vrai est déclinable, est universel. Deuxièmement, ce qui est arbitraire n'est valable qu'à un moment. N'est valable qu'à un moment. Et nous cherchons des solutions durables à comprendre ce qu'est le mal pour tous et pour toujours. Et donc, il nous faut rentrer dans ce mystère du fait que Dieu est bon et qu'il y a du mal. Et que si Dieu est bon, le mal n'est pas une consistance. Et avant de commencer à parler dans la foi chrétienne, il est bon un tout petit peu de faire une parenthèse philosophique. Excusez-moi, mais c'est important. Le fait que les choses soient créées, qu'elles existent, c'est profondément un bien. Dans la philosophie, le christianisme n'a pas de philosophie. Mais il s'appuie sur la pensée, voilà, de différents grands théologiens qui eux-mêmes s'appuient sur différentes philosophies, en particulier la philosophie d'Aristote. Voilà. Thomas d'Aquin est très marqué par Aristote. Et Thomas d'Aquin développe lui-même des aspects de la philosophie de l'être. Et dans la philosophie de l'être, le fait que les choses existent, tout ce qui existe est bon, parce que c'est dans l'existence. Le vrai n'est pas une question de point de vue. Le vrai se mesure parce que les choses existent. Ce qui est dit quelque chose de la vérité. Ce qui est dit quelque chose de la beauté. Ce qui est dit quelque chose de la bonté. Et qu'est-ce que c'est à ce moment-là que le mal? C'est une carence de bien. C'est le fait qu'il manque quelque chose. Une privation de ce qui est nécessaire et est dû à quelque chose ou à quelqu'un. Ainsi, nous voyons que, par exemple, un homme debout et un homme à qui on a amputé une jambe, c'est un mal existentiel d'avoir une jambe coupée, parce que normalement, ça lui est dû. Mais ce qui est premier dans l'ordre du créé, c'est bien que les choses existent et qu'elles sont bonnes. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire que le mal n'est pas l'origine du cosmos. Que le mal vient après le bien. Que le bien n'a même pas besoin de mal pour exister. Le fait qu'il existe, que les choses existent, c'est un bien. Que les choses soient amoindries, c'est un mal, ça vient après. Le mal a besoin, par contre, lui, du bien pour exister. Le bien est antécédent au mal. Ça détruit complètement la théorie manichéiste. De quoi? Comme quoi il y aurait un dieu du bien, un dieu du mal. Non, ce qui existe est bon. Et surtout suffit. Et s'il y a une carence, une altération, c'est un mal. Parce que normalement, c'est dû, ça devrait être complet. Vous voyez? Ça, c'est très important de penser cela. Parce qu'il n'y a pas une histoire de jeu d'équilibre entre du bien et du mal qui se compenserait, comme certaines philosophies orientales le penseraient. Ça, c'est une aberration philosophique. Ce qui existe est bien. Et du coup, nous pouvons, à partir de là, nous appuyer sur le credo en rappelant que Dieu est créateur et qu'il est bon, et ce qui est créé est bon. Et ce qui est détérioré dans la création, ben, c'est un mal. Mais le mal n'a aucune consistance. Il est juste une absence de bien. Le mal n'a aucune consistance. Le bien a de la consistance, c'est ce qui est. Le mal n'a rien. Voyez ? Donc le mal ne peut pas exister sans le bien. L'inverse est vrai. Ça, c'est important de penser cela. Et que dans l'ordre du créé, il y a des mâles nécessaires. Ah oui. Il ne faut pas rêver naïvement que, par exemple, le petit ver de terre, la poule, le renard et le chasseur seraient autour de la table et discuteraient. Effectivement, dans le cosmos tel qu'il est créé, le petit ver de terre est mangé par la poule qui est mangée par le renard, et le renard est chassé par le chasseur. Et c'est un mal nécessaire. Le Créateur a permis cela dans le cosmos. Ce n'est pas mauvais. Ce n'est pas mauvais au sens moral. Ça fonctionne ainsi. Voyez ? Quand nous abordons la question du mal, il faut purifier déjà cette approche qui serait un peu naïve. Parce que c'est normal. Dieu le permet. Le cycle, voilà, des vivants fonctionne ainsi. Voilà. Jésus qui mange l'agneau pascal, il dit pas c'est un mal. voyez. Et pourtant, si on était un peu d'une approche un peu trop naïve, on dirait, mais pourtant on tue, etc. Mais c'est permis dans le crime. Et ça n'a aucune valeur morale. Et la question que nous devons nous poser, c'est quoi alors le mal au sens fort? Parce qu'il semblerait qu'il y a des mâles nécessaires qui sont en fait une forme de bien pour la continuation de la création. Le mal, au sens fort du terme, c'est le mal moral. C'est quand quelque chose de bien est détourné, est désorienté, ne va pas vers sa finalité. Voilà. Du coup, il est altéré, il est corrompu. Ça, c'est la racine du péché. Le péché désoriente, met du désordre. Voilà. Détruit, altère, salit. Quelque chose qui est fondamentalement un bien, au départ. Voyez ? Mais en aucun cas, le fait de manger une dinde à Pâques va être un mal. Non, mais c'est important. Voyez ? Donc Dieu n'a pas créé le mal. Dans la création, il y a des mâles nécessaires qui sont un bien quand on regarde dans tout l'ordre créé. Ce qui est très différent du mal moral. Voilà. Et que le bien précède le mal, qu'il n'y a pas une sorte d'équilibre, de force antagoniste. Vous voyez ? Nous avons à retrouver cela. Souvent, la philosophie aide à repasser de bonnes bases. Toujours est-il, il y a quand même un mystère de la propagation du mal moral quand on regarde tout le fait de perdre le sens de Dieu, le fait de perdre le sens du couple, le fait de perdre le sens de la justice, des valeurs morales, le fait, comme dit Paul, de ne pas faire le bien qu'on voudrait faire et de faire le mal qu'on ne voudrait pas faire, le fait des guerres, des injustices sociales, ça, ce n'est pas de l'ordre du créé, c'est le détournement de ce qui est créé. Ça a une valeur morale, une valeur spirituelle, et ça se propage, ça grève tout. Et bien ça, c'est effectivement la racine du mal, elle se manifeste. L'Église nous dit que le mal est partout. Voilà. Le mal est partout. Personne ne peut être exclu de la souffrance et du mal. Tout le monde, quelque part, y est touché, y est impacté. Et la réponse du christianisme au mystère du mal n'est pas, comment dire, simple. Il faut la prendre dans sa totalité. Il n'y a pas un moment qui va tout nous éclairer. C'est tout le christianisme. Voilà ce que dit l'Église. Si Dieu est le Père tout-puissant, créateur et bon, pourquoi le mal existe? À cette question, aucune réponse rapide ne saura suffire. C'est l'ensemble de la foi chrétienne qui constitue la réponse à cette question. Il n'y a pas un trait du message chrétien qui ne soit pour une part une réponse à la question du mal. En gros, il faut vivre cela. Il faut vivre totalement cela pour avoir une réponse au mal. Vu de l'extérieur, ça restera une discussion salon, mais qui n'éclairera pas complètement tout l'être. Voilà. Alors maintenant, nous allons rentrer sur la question du mal. Quand nous avons vu un petit peu ses racines, voilà, dans les différentes approches anciennes, commençons maintenant par le fait que l'homme est un homme qui souffre. Voilà. L'expérience de la souffrance, nous dit l'Église, personne n'échappe à l'expérience de la souffrance. L'homme est touché dans son cœur, dans son agir, par le mal, et il ne sait pas forcément d'où ça vient. Eh bien, d'où ça vient, profondément, ça vient du fait que nous sommes pécheurs. Ça vient du fait que nous sommes pécheurs, et que depuis l'origine, l'homme, par un péché de désobéissance, dû à l'orgueil, s'est détourné du Créateur. Voilà. En librement, un acte libre, il a péché en se désobéissant et en se détournant du Créateur. Et de dépendance, il est devenu indépendant. Et ce que je vous avais déjà dit, c'est que en lui-même, les principes ont été altérés. Le primat du spirituel sur l'intellectuel, l'intellectuel sur le passionnel, a été embrouillé, ce qui fait que nous ne fonctionnons pas comme nous pensons. Et quelque part, notre prière ne vient qu'à la fin alors qu'elle devrait gouverner même notre intelligence. Il y a un désordre dans l'homme, il y a un désordre dans l'homme avec le cosmos, il y a un désordre entre l'homme et Dieu. Et du coup, la perte du sens de Dieu, la perte de la capacité à faire confiance à Dieu, est inscrite dès le départ du péché des origines, puisqu'Adam et Ève ont peur de Dieu. Ils ont perdu le visage de Dieu, ils ne le connaissent plus. Voilà. Ils se font des fausses images. Nous voyons que cette propagation du mal, c'est comme du pétrole sur l'eau. Ça va polluer et s'amplifier. Et oui, on perd le sens de Dieu. Qu'est-ce qui se passe après? La domination entre Adam et Ève. Les passions gouvernent la raison. Qu'est-ce qui se passe après? Le premier meurtre. Cain tue Abel. Qu'est-ce qui se passe après? L'idolâtrie. On perd le sens de Dieu, on fait du polythéisme. Et qu'est-ce qui se passe maintenant? L'athéisme. On n'a plus de sens de Dieu. Et on tue l'homme, dès sa conception ou à la fin, ou même tout le temps. Donc, l'homme se tue en perdant le sens de Dieu. Il a perdu le sens de Dieu par le péché. Plus rien ne lui est évident. Voilà. Et il faut retrouver cela. Il faut retrouver cela. Donc nous avons cette expérience de l'homme pécheur dès le début de l'Écriture dans la Genèse. Et petit à petit, on va comprendre l'homme en découvrant, redécouvrant le Seigneur dans l'Écriture, va redécouvrir le sens du péché. Je vous avais déjà dit cela, qu'en découvrant le saint, on découvre qu'on n'est pas saint et qu'on est pécheur. Mais par rapport au mal, Israël va découvrir peu à peu ce qu'on appelle la loi de la rétribution. Tu as fait mal, tu es puni. Tu as fait mal, Dieu te punit. Et on aura des éléments de cela quand les Juifs parleront à Jésus, quand par exemple ils diront « Pourquoi lui un tel, il est handicapé, il est sourd, il est aveugle ? Est-ce qu'il a péché, ses parents, ses ancêtres ?» Et le Christ coupera cette approche en disant « Non, c'est pour la gloire de Dieu, ni l'un ni l'autre. Voilà. » Parce que cette morale de rétribution était très marquée. Elle va littéralement sauter avec l'expérience de l'innocence face au mal. Et oui, Job, qui est quelqu'un de bon, quelqu'un de juste selon Dieu, qui est béni dans sa famille, dans sa prospérité économique, Job va perdre la santé, va perdre sa prospérité économique, il va tomber malade et du coup ses amis vont venir le voir en disant « Mon pauvre Job, etc. Mais bon, tu as péché, quoi. Et c'est normal. » Et Job va dire « Mais non, j'ai rien fait. » Alors les amis diront « Ben non, t'as fait du mal. Ben non, j'ai rien fait. Ben Job, tu devrais peut-être te taire parce qu'en fait tu insultes la loi de Dieu parce que t'as fait quelque chose, t'es puni. Ben non, j'ai rien fait. Ben Job, tu deviens énervant. » Et donc plein de chapitres vont être comme ça. Et Job, au bout d'un moment, lui-même est énervé parce qu'il ne comprend pas le sens de son mal. Et donc il en veut à beaucoup, il en veut même à Dieu, et il maudit le jour où il est né. Voilà. Et ses amis se relaient, à force d'arguments, de rhétorique, mais non. Et Job va quasiment aller au blasphème, quoi. Il va au bout de ce qu'il peut, en s'énervant, et il crie. Et il va faire une expérience de Dieu. Il va faire une expérience de Dieu où Dieu va lui montrer sa grande sagesse universelle. En lui posant la question, est-ce que tu étais là à la fondation du monde? Et Job comprendra en fait qu'il ne comprend pas. Job comprendra qu'il ne comprend pas, mais que Dieu comprend. Et donc il est face à un mystère, mais il a compris que Dieu est sage, que ce n'est pas n'importe quoi. Voilà, que c'est mystérieux, mais que ce n'est pas n'importe quoi. Et Dieu va du coup restituer Job dans sa prospérité, dans la santé, etc. Ça finit bien, ici-bas. Ça aurait pu finir bien là-haut, mais ça finit bien ici-bas. Mais toujours est-il, Dieu dira aussi à ses amis que Job a eu raison. Que le cri de l'innocent qui crie sa non-compréhension, sa révolte, est un cri légitime. Et qu'il ne faut pas l'étouffer sous prétexte de justice, t'es comme ça, t'as péché. Voyez, nous avons quelque part des reliques de cela, en disant, mais qu'est-ce que j'ai fait au bon Dieu pour mériter ça? Ben non, c'est pas comme ça. C'est pas comme ça. Dieu ne veut pas le mal. Il faudra du temps pour Israël pour découvrir que Dieu ne veut pas le mal. Voilà, que Dieu est innocent du mal. Voilà, que c'est le propre, qu'il y a un mystère du fait que le mal est là, qui ne se solutionne pas intellectuellement, il y a un mystère, mais que pourtant la création est bien bonne. Elle n'est pas gouvernée par du bien et du mal, elle est bonne, mais elle a été abîmée. Et pourquoi il y a ce mystère du mal qui se propage? Dieu ne le veut pas. Et pourtant, Dieu le permet. Ce qui est très différent. Voilà. Le cri de l'innocent montre bien qu'on n'est pas dans l'ordre d'abord de la justice. Il y a du mal à un tel, ça voudrait dire que ceux qui sont très malades ou très souffrant, mais il a bien plus mérité que d'autres. Non, c'est pas ça. Il y a des justes même qui souffrent plus que des gens qui ne sont pas justes, selon Dieu. Voilà. Voilà, la répartition des souffrances, on n'est pas égaux devant. Et bien, c'est comme ça. C'est un mystère. Alors, avant d'aller plus loin, on va voir que ce mal s'éclaire avec le mystère du Christ. Ce mal s'éclaire avec le mystère du Christ. Ce qui est important, c'est de nous redonner le sens du péché. Voilà, Israël découvre le sens du péché, découvre ce que le péché, c'est une blessure faite à Dieu, une blessure dans l'amour de Dieu, un acte, comme je disais une fois, volontaire, libre de la personne, et nous sommes enclins à pécher parce que nous sommes pécheurs. Le fait qu'Adam et Ève ont péché n'implique pas que nous avons péché, mais nous sommes incapables de faire totalement le bien. Et que si nous ne sommes pas dans la grâce de Dieu, cette incapacité à faire le bien va nous obscurcir, nous endurcir, et nous allons perdre même le sens de Dieu et le sens du mal. Nous nous ferons mal sans le savoir. Et ça, c'est vrai. Et s'il y a des mâles nécessaires, comme je disais, qui organisent le cosmos, il faut le dire, le péché de l'homme a des propagations mystérieuses sur le cosmos. Et le péché de l'homme a provoqué le mal qu'il y a ici-bas. Il ne faut pas en vouloir à Dieu. Les problèmes écologiques, les problèmes de justice sociale, les problèmes d'égalité des ressources, les guerres, la non-capacité à rendre à Dieu facile, c'est le péché de l'homme. Voilà. Il faut être honnête, les mots viennent de là. Voilà. Pour la très grande partie. Et le reste, le mal nécessaire, c'est mystérieux, mais Dieu le permet. Voilà. Mais en aucun cas, il est mauvais en faisant ça. Alors, peut-être d'abord retrouver le sens du mal, le sens du péché, voyez-vous. Et je citerai l'exhortation apostolique de 1984 de Jean-Paul II qui s'appelait « La pénitence et la réconciliation, reconciliatio et penitentia », qui dit des choses superbes, assez décapantes, mais superbes. Je cite « L'homme contemporain ne vit-il pas sous la menace d'une éclipse de la conscience, d'une déformation de la conscience, d'un engourdissement ou d'une anesthésie des consciences ? Trop de signes indiquent qu'à notre époque se produit une telle éclipse, ce qui est d'autant plus inquiétant que cette conscience, définie par le Concile comme le centre le plus secret et le sanctuaire de l'homme, est étroitement liée à la liberté de l'homme. C'est pour cela que la conscience constitue un élément essentiel qui fonde la dignité intérieure de l'homme et en même temps son rapport avec Dieu. Il est donc inévitable dans cette situation que le sens du péché soit lui aussi obscurci, car il est étroitement lié à la conscience morale, à la recherche de la vérité, à la volonté de faire usage responsable de sa liberté. L'exhortation continue en disant « Ce sens du péché disparaît également dans la société contemporaine, où l'on tombe en accueillant certains résultats des sciences humaines, c'est très fort ça, même si les sciences humaines sont bonnes en soi. Ainsi, en partant de quelques-unes des affirmations de la psychologie, la préoccupation de ne pas culpabiliser ou de ne pas mettre un frein à la liberté porte à ne jamais reconnaître aucun manquement. C'est pas ta faute, c'est comme ça. On ne te culpabilise pas. Perte totale du sens du péché, sous prétexte de développer, c'est bon, l'analyse psychologique. Mais quelque part, on s'est totalement déresponsabilisé. Très intéressant. À cause d'une extrapolation indue des critères de la science sociologique, maintenant, on en vient, comme j'y ai déjà fait allusion, dit le saint pape Jean-Paul II, à reporter sur la société toutes les fautes dont les individus sont déclarés innocents. Ben, il est comme ça, c'est le contexte. Voilà. Etc. Il n'y a plus de capacité de l'homme à discerner ce qui est bien ou mal, selon Dieu. C'est pas sa faute. Il est déterminé. Si pour une part c'est vrai, comment se fait-il qu'aujourd'hui, cette approche-là ait pris la totalité ? Perte du sens du péché. Également, une certaine anthropologie culturelle, à son tour, à force de grossir les conditionnements inaliénables et l'influence du milieu et des conditions historiques de l'homme, limite sa responsabilité au point de ne pas lui reconnaître la capacité d'accomplir de véritables actes humains et par conséquent la possibilité de pécher. Le sens du péché disparaît facilement ainsi sous l'influence d'une éthique dérivée d'un certain relativisme historique qui relativise lui-même la morale. Oh, vous savez, c'était comme ça à l'époque, c'était mauvais, maintenant ça a changé. On a grandi. Voyez, il faut vivre avec son temps. On perd du sens. Et là, c'est très marquant. De la même manière, je trouve ça très fort. Certains, par exemple, tentent à remplacer des aptitudes excessives du passé par d'autres excès. Donc je suppose que c'était la logique de culpabiliser à l'extrême. Au lieu de voir le péché partout, on ne le distingue plus nulle part. C'est sympa que Jean-Paul II dit ça, hein, texte qui mériterait d'être connu. Au lieu de mettre trop l'accent sur la peur des peines éternelles, on prêche un amour de Dieu qui exclurait toutes les peines méritées par le péché. Au lieu de la sévérité avec laquelle on s'efforce de corriger les consciences erronées, on prône un tel respect de la conscience qu'il supprime le devoir de dire la vérité. Chacun pense comme il veut. Surtout, ne dérangeons personne. Et pourquoi ne pas ajouter que la conviction... Alors, il y va fort, le Saint-Père. Et pourquoi ne pas ajouter que la confusion créée dans la conscience de nombreux fidèles par les divergences d'opinions, d'enseignements, dans la théologie, dans la prédication, dans la catéchèse, dans la direction spirituelle de sujets graves et importants, finit par amoindrir, presque au point de l'effacer, le véritable sens du péché. Une responsabilité à rappeler le sens du péché, qui est quelque chose d'objectif, intemporel, c'est pas relativiste dans l'histoire, qui au-delà du conditionnement psychologique et sociologique, et que l'homme, par sa conscience, son sanctuaire, comme l'a rappelé le Concile, est capable d'entendre effectivement ce qui est bien, ce qui est mal, parce qu'il est créé par Dieu, et Dieu dans son cœur, sans forcément encore avoir la foi, il peut lui dire « Mon enfant, là, ce n'est pas bon. » Et nous avons à obéir à notre conscience, plus que cela, à l'éclairer pour savoir de plus en plus quel est le sens du bien et du mal. Et relativiser ça, c'est véritablement un grave péché. Un grave péché. Comme le disait encore une fois le pape Pie XII, le péché de cette époque, c'est la perte du sens du péché. Voyez. Et nous avons à retrouver cela. Si nous voulons retrouver, si nous retrouvons le sens de Dieu, nous allons retrouver à la fois le sens du péché et le sens de sa miséricorde. Dans l'année de la miséricorde, il est impossible de faire l'économie de la méditation du péché. Parce que sinon, il donne miséricorde pourquoi ? Pour rien. Voyez. Et si nous voulons être honnêtes, le sens du péché, ce n'est pas mon sens à moi, c'est que me dit l'Église, que me dit l'Évangile, que me dit la lumière qui éclaire ma conscience sur le péché. Je vais prendre un exemple très clair, que personne ne se sente jugé. Mais nos frères, les premiers chrétiens, étaient prêts à être martyrs pour aller à la messe. Dans la culture du confort que nous sommes, une messe manquée dimanche, ça ne fait pas de mal. Altération totale des intelligences, endurcissement total, obscurité totale par rapport au christianisme des premiers siècles. Voyez. Et le contexte nous aide à justifier tout et n'importe quoi. Voyez. Ben, il faut s'en défaire. Il faut s'en défaire. Et si on dit, mais vous rappelez ça, vous êtes dur, vous culpabilisez. Oui, mais c'est que dire qu'on n'a plus de sens moral, on ne peut pas dire ça. Voyez. Et on peut être coupable de dire la vérité. Et dans le contexte, on est. Eh bien, il faut s'en défaire aussi. Il faut être courageux, rappeler ça. Parce que dire les choses permet de amener à la guérison. Voyez. Jésus dit, sans juger, mais il dit pour libérer. Si vous demeurez dans mes paroles, vous connaîtrez la vérité vous rendra libre. Donc ça, c'est vraiment nécessaire. C'est nécessaire. Si nous faisons cela, nous allons petit à petit découvrir que nous sommes plus pécheurs que nous le croyons, que nous allons arrêter de nous justifier sur tel ou tel point et que nous allons accepter notre responsabilité. Voilà. Que Dieu est bon et nous révèle progressivement notre responsabilité sans nous écraser. Cette responsabilité, cette connaissance de l'être pécheur qui fait des péchés mais qui peut recevoir le pardon de Dieu, c'est la connaissance de soi. Et la connaissance de soi, nous dit Thérèse d'Avila, c'est le fondement de la vie spirituelle. Sans connaissance de soi, on est dans l'illusion. Voilà, on ne fonde pas. La connaissance de soi, ça permet le choix de la conversion, le choix de la lutte contre le mal en soi. Et on commence la vie spirituelle. Voilà. Et c'est très fort parce que le saint pape Jean-Paul II disait « Rétablir un juste sens du péché, c'est la première façon d'affronter la crise spirituelle qui pèse sur l'homme de notre temps. » Vous voyez ? En fait, c'est libérateur que de faire ça. Donc, dans notre manière dont nous éduquons nos enfants, nos petits-enfants, dont nous parlons, une des œuvres de miséricorde spirituelle, ça s'appelle « Avertir le pécheur ». C'est ça, éduquer au sens moral. Que ça plaise ou non, c'est bon. Voilà, c'est bon. Et il y a un courage à reprendre ce champ-là, qui n'est pas le champ inquisiteur, mais qui est le champ de façonner une conscience. De façonner une conscience. Voilà, ça c'est important. Voilà. Alors, l'homme est touché par le mal, parce qu'il est pécheur depuis les origines, et qu'il est enclin à faire le mal. Et que ce mal-là, s'il ne trouve pas le moyen de guérison qui est la grâce, ça s'amplifie en lui. Voilà. Ça s'amplifie en lui. Et ça grève tout. Ça touche tout. Tout l'être, tout l'agir. Voilà. Et pourtant, il y a un autre aspect à ce mystère qui est le mal démoniaque. Les démons sont d'abord des anges. Il n'y a pas eu toujours des démons, mais il y a eu des anges. Il y a eu du bien au départ, je disais. Et donc, qu'est-ce que c'est ? C'est le choix libre de plusieurs anges d'avoir refusé de dépendre à Dieu, d'avoir préféré leur superbe à Dieu. Et en faisant cela, ils se détournent de leur source et ils se noircissent de l'intérieur. Satan, c'est celui qui est ordonné à Dieu et qui pourtant préférera sa superbe à Dieu et donc il sera dans une continuité. Noël lutte avec Dieu. Voilà. Ça ne sert à rien de prier pour Satan. Satan, jusque dans l'éternité, il sera mauvais. Il a librement choisi d'un acte définitif de se rebeller contre Dieu. Et Dieu lui permet d'exister encore, puisque il le maintient dans l'existence. Satan n'existe pas par lui-même, mais Dieu ne lui donne plus sa grâce, il est coupé de sa grâce. Voilà. Et que fait Satan, son grand jeu ? C'est de détourner la création, de détourner tout le créé pour le pervertir, et particulièrement ce qui a le plus de valeur, qui a une valeur spirituelle, qui est l'être humain. Alors ça, on met le paquet. Et donc, dans le mystère du mal, il faut ne pas se déresponsabiliser, accepter sa culpabilité, se donner les moyens de prendre conscience du mal pour le réfuter et de la grâce pour nous aider, de vraiment fortifier sa volonté pour s'en sortir, mais accepter aussi qu'il y a un mystère qui nous dépasse, qui est le mystère démoniaque. Voilà, je parlais aux jeunes étudiants la semaine dernière, dans l'expérience de la montée du nazisme, par exemple, nous avons le démoniaque qui se manifeste. Comment un homme comme Hitler, si simple, si pas forcément brillant, va liguer autour de lui des intellectuels, et ou même des hommes d'armes, etc., des économistes, et arriver à détourner l'activité humaine vers un mal et obscurcir les consciences pour véritablement tuer des victimes en grand nombre, d'une manière mécanique et froide. On a là l'expression d'une forme de démesure, d'irrationalité, de fascination qui ne s'arrête plus, qui est exponentielle, qui est l'expérience du mal démoniaque, qui va bien au-delà de simplement la culpabilité humaine. Ça n'enlève pas la responsabilité d'Hitler ou d'autres. Ça veut dire que là, il y a quelque chose qui dépasse. Voyez. Et il y a cette lutte. Nous sommes dans les complices, nous disons que le démon est comme un lion qui rugit, cherchant sa proie. C'est la lecture que nous faisons le soir dans une des complices. Et bien justement, le démon essaye de faire cela. Il tente, il séduit. Et il s'y prend comment ? Il trompe. Le serpent trompe sur ce qu'a dit Dieu. Il trompe Adam et Ève. Donc il trompe la vérité une fois et il la rend attrayante. En trompant, il détourne et en détournant, il montre une autre cible qui est attrayante. Mais il est obligé de rendre ça attirant, parce que sinon nous n'irions pas. Personne ne va vers le mal par dégoût. On y va toujours parce qu'on est attiré. Et comme on est attiré, nous sommes enclins au péché depuis que nous sommes pécheurs. Il faut de la cesse résister. Le mal a toujours un petit goût d'y revenir. Il faut résister. Voilà. Il faut discerner. Voilà, le menteur. Et aussi, bon, c'est comme nous avons vu les péchés capitaux, il cache surtout les origines des éléments, parce que si on le dévoilait, s'il montrait ce qu'il faisait, il a perdu. Par exemple, un grand truc que vous pouvez faire, c'est quand vous êtes tenté de telle ou telle chose, allez en parler à un prêtre ou à un tiers. Généralement, ça se dégonfle. Pourquoi? Parce que c'est mis à jour. La technique est mise à jour. Voilà, c'est son grand jeu. Il agit discrètement. Voilà. Donc ça, c'est véritablement le mal démoniaque qui agit, qui a des propagations. Et ce qui est étonnant, Dieu permet l'influence du mal démoniaque. On a ça dès le livre, dans la Genèse, mais on a aussi cela dans le livre de Job, par exemple. Job est quelqu'un de bien et Satan dit à Dieu, mais ton gars, c'est un gars bien. Mais on va le tenter, on va voir s'il tient le coup. Et Dieu lui dit, ok, mais tu ne le tues pas. Donc il y a une permission divine de l'activité démoniaque, qui est un mystère. Mais elle est permise par Dieu. Elle est permise aussi, elle influence le péché. Voilà. Mais pas jusqu'au centre. Nous sommes libres intérieurement de pouvoir dire oui ou non. Le démon n'a pas pris sur notre âme directement. Voilà. Sur les sphères d'imagination, de tout le reste, il agit pas sur le cœur. Nous sommes un jeu libre. Celui qui est que dans une forme de fatalité, oh j'ai pas pu, voilà, ben, il va se faire manipuler. Il faut décider cette liberté intérieure et les moyens, la prière, pour résister. Alors le Christ va nous éclairer sur le mystère du mal, sur beaucoup de choses. L'Église nous dit encore, nous devons approcher la question de l'origine du mal en fixant le regard de notre foi sur celui qui seul en est le vainqueur. Voilà. Alors si nous regardons Jésus, nous voyons d'abord que Jésus est le grand innocent. J'aime bien prendre cet exemple, c'est que Jésus, on l'a frappé lors de son procès. Et il a dit aux soldats, si j'ai mal parlé, dis-le-moi, si j'ai bien parlé, pourquoi me frappes-tu? Il comprend pas la perversité qui vient de se faire sur lui. Dieu est profondément innocent. Voilà. Profondément innocent. Donc, le mal l'impacte encore beaucoup plus que nous, parce que nous sommes complices. Dieu est profondément innocent. Jésus est celui qui est innocent. Et je voudrais bien qu'on entende ce verset qui peut faire un bien fou, spirituellement. Dans Saint Jacques, chapitre 1, verset 13. Dans l'épreuve de la tentation, que personne ne dise « ma tentation vient de Dieu », Dieu en effet ne peut être tenté de faire le mal, lui-même ne tente personne. C'est clair. Voilà. Cette perversion qui touche même le spirituel jusqu'à dire que Dieu m'en veut. Dieu nous veut du mal. Ben non. Voilà. Ça a été abîmé, il faut éclairer. Pourtant, Dieu permet. Et Dieu aurait pu annihiler le mal. Et par exemple, à la suite de la Shoah, des penseurs ont dit que Dieu n'était pas tout-puissant. Alors, parce que finalement, il n'aurait pas permis le mal. Il y avait trop d'obscurité pour comprendre que Dieu puisse être tout-puissant à ce moment-là. Et pourtant, Dieu a permis, mais Dieu est innocent de tout cela. Il n'a pas voulu cela. Et pourtant, Dieu reste tout-puissant. Mais alors, comment il reste tout-puissant s'il permet tel mal? Dieu ne résout pas le mal en claquant des doigts. Il le pourrait, mais il ne le fait pas comme ça. En s'incarnant, Jésus porte la souffrance de tout homme. Porte les conséquences des péchés. Saint Paul dit qu'il s'est fait péché pour nous. Il porte le mal sur nous, sur lui. Mais il n'est pas complice du mal, il est tenté profondément, mais en aucun cas il adhère. Première chose. Donc il nous rejoint dans notre souffrance, dans le mal que nous avons fait, dans les conséquences du péché sur nous. Voilà. Il nous rejoint là-dessus. Et il va vaincre cela de l'intérieur. Voyez, le péché, le mal conduit à la mort, physique et spirituelle. On peut tuer, on peut mourir, on peut aller en enfer. Jésus va continuer à combattre le mal en expulsant les démons, en guérissant quand c'est nécessaire, mais il va aller jusqu'à la racine qui est même là, qui conduit à la mort. Le péché, le mal conduit à la mort. Eh bien, Jésus va mourir. Mais sa mort devient le lieu de la guérison. Parce que la croix, qui était pourtant un supplice de l'homme pécheur qui fait mal à son Dieu, c'est devenu le lieu de la guérison. Le Christ a pardonné à la croix, il a vaincu la mort. Et celui qui suit la croix, qui prend le chemin de croix, il peut être reconstruit. Reconstruit dans primauté spirituelle sur intellectuelle, intellectuelle sur les passions, et se reconstruit en suivant son Seigneur. Il est en voie de guérison. Donc la souffrance n'est pas enlevée par Dieu pour permettre d'être une souffrance salvifique, pour guérir le mal. Voilà. Dieu a fait de la boue quelque chose de l'or. Et voilà. Ça, c'est mystérieux. Et ce n'est pas l'intelligence qui le comprend, c'est celui qui souffre, qui suit le Christ, qui va comprendre que ça a un sens et qu'il y a un chemin de guérison. Parce que le Seigneur aurait pu le faire autrement, mais il a choisi ce chemin. C'est mystérieux. Et vous voyez, c'est quelque chose que l'intelligence ne comprend pas. C'est obscur. Scandale, nous dit l'Écriture. Mais nous rentrons là-dedans parce que, si nous voulons suivre le Christ, nous aurons là une lumière. Nous aurons là quelque chose qui va nous éclairer. Là, c'est mystérieux, mais c'est vrai. Et la toute-puissance de Dieu, c'est effectivement parce que Dieu va permettre à partir de là de vaincre le mal, mais de l'intérieur. Et la résurrection, c'est la victoire définitive du Christ sur le mal. Et nous savons par dans l'espérance que Dieu permet un temps à l'action démoniaque de se faire, mais au retour du Christ, à la fin des temps, Satan n'aura plus d'activité, il ne pourra plus agir. De la même manière, dans la gloire de Dieu, nous ne pécherons plus. Voilà. Nous ne pécherons plus. Comment le Christ vainc le mal dans cette attitude? Par amour et par obéissance. Ce qui est le contraire de l'origine du mal, qui est venu par désobéissance. Celui qui obéit à Dieu, qui prend sa croix et qui le suit, est sur le chemin de la guérison. Voilà. Ça n'a pas de très bonne presse, mais c'est la solution au mal. C'est la solution au mal. Mais celui qui fait son examen de conscience, qui lutte, qui demande la grâce, qui prend sa croix, c'est quelqu'un qui est en train de mettre de la lumière là où il y a de l'obscurité. Voilà. C'est pour ça qu'il nous faut méditer cela à froid, parce que quand c'est à chaud, la croix peut nous sembler, il faut être humble devant la croix, elle peut être dure, les conséquences. Là, je parle de la souffrance, mais ça peut être aussi une souffrance due au péché. Hein, il y a une peine temporelle, voilà, qui nous fait que ça fait souffrir tel péché. Eh bien, la croix est un chemin de guérison. Et Paul, qui comprend cela, dira cela en Colossiens 1, 24. Ce qu'il dira: moi, Paul, qui me réjouis maintenant dans les mots MAUX que je souffre pour vous et qui accomplis dans ma chair ce qui manque aux souffrances du Christ en souffrant moi-même pour son corps qui est l'Église. Voilà. Il s'offre lui-même avec la passion du Christ et il sait que là, il y a un chemin de lumière, de bonté. Voilà. Alors que c'est de la souffrance. Alors il est peut-être bon de méditer la souffrance, j'ai parlé du mal, du péché, de méditer la souffrance. La souffrance, Jésus nous rejoint dans la souffrance. La première chose peut-être qui est importante, c'est que quand nous accompagnons des souffrants, la première chose, c'est pas forcément de leur dire toute la théorie qu'on vient de dire là, mais c'est d'avoir l'humilité de compatir, de souffrir avec et de faire silence. Et que cette expérience doit se découvrir de l'intérieur. Voilà, de l'intérieur. Et petit à petit, dans le lien de charité, de proximité, l'expérience, la proposition du crucifié et le témoignage de foi peut venir. Voilà. Ça peut être des fois insoutenable, nous rappeler le cardinal Journet, si nous disons la théorie avant de la compassion. Vous voyez, le Seigneur n'a pas parlé en premier, il a pris la souffrance. Il est venu dans la chair qui souffre. C'est premier. Donc ça, c'est très important pour nous. Et pour nous, du coup, si nous voulons être des témoins crédibles qui vaincront le mal avec le Christ, je crois qu'il ne faut pas se rajouter des croix que nous n'avons pas. Il faut accepter les croix que nous avons. Ce n'est pas celles que nous avons choisies, mais c'est celles qui nous sont permises par Dieu. Et si Dieu permet un mal, il pourrait l'enlever. S'il le permet, c'est qu'il sait qu'il peut en tirer un plus grand bien. Ce n'est pas lui l'auteur du mal, je disais, Dieu est innocent. Mais quand il voit un mal qui est là, il n'est pas obligé de l'enlever. En toute justice, il peut le laisser si le mal est notre faute. Mais c'est pour en tirer un bien. Voilà. Alors, nous pouvons méditer cela, nous prierons les prochaines fois de notre Père. Délivre-nous du mal. Amen.